Le paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Le paddock RMC, c'est ton podcast Formule 1 pour débriefer et désormais pour programmer ce qui va se passer dans les week-ends de Grand Prix, parce que c'est un nouveau format. On vous en a parlé lundi lors du dernier épisode, le débrief du Grand Prix des États-Unis, d'ailleurs, que vous pouvez réécouter, hein. Je tiens à le dire, ça cartonne. Pour le coup, cet épisode débrief du Grand Prix d'Austin avec ce fameux dépassement de Lando Norris sur Verstappen qui a fait polémique et cette pénalité de 5 secondes. Mais on vous en avait parlé, on va essayer de se faire des warm-up avant les week-ends de Grand Prix. Et bah, c'est notre premier épisode aujourd'hui. N'hésitez pas à nous dire, bien évidemment, dans les commentaires, hein, sous les posts RMC Sport ou même par message privé si vous aimez ce format-là, à nous mettre une petite note pour voir si ça vous plaît. On essaie de faire des contenus un maximum pour vous, hein. Et je vous rappelle que les notes sont super importantes dans le référencement du podcast. L'équipe de ce warm-up avant le Grand Prix de Mexico au Mexique, ils sont là, Julien Absalon et Louis Gerbier. Salut les gars.
Salut Nico.
Salut.
C'est pas mal ce petit concept warm-up là, hein, on va se régaler, non?
Bah, ouais, c'est sympa.
Ouais, on va voir ce que ça donne. Mais vous allez être très grand, vous êtes très bon dans les débriefs. Je vois pas pourquoi vous serez mauvais avant. Hein. Les gars, il nous reste 5 grands prix avant la fin de cette saison et on va bien sûr se concentrer sur la lutte entre Lando Norris et Max Verstappen et présenter ce Grand Prix du Mexique qui est très particulier puisque, je vous le rappelle, Grand Prix en haute altitude à plus de 2200 mètres, c'est une vraie donnée particulière à gérer pour toutes les écuries du plateau. C'est parti pour ce warm-up du paddock RMC. Grand Prix du Mexique, je vous le disais, il reste 5 courses et 2 courses sprint, hein, faut pas l'oublier. Louis, on va présenter ce tracé de Mexico sur l'autodromo Hermanos Rodriguez. C'est un circuit long de 4 304 km. C'est la 21e fois, je crois, que la F1 roule au Mexique, donc c'est un Grand Prix, on va pas dire historique, mais il a fait son retour dans les années 2010 et désormais c'est une date qui est bien installée au calendrier.
Ouais, c'est un GP historique que nous jeunes, nous avons pas connu. Jean-Luc l'a connu, lui, puisqu'il n'est pas jeune. Mais c'est surtout un retour depuis 2015, donc ça va faire bientôt 10 ans. Et c'est surtout le Grand Prix le plus haut du championnat. Donc l'altitude, c'est l'enjeu majeur pour les monoplaces. Lors de ce Grand Prix, pour les ingénieurs lors de ce Grand Prix, puisqu'en fait t'as moins d'air là-haut, donc t'as une incidence directe sur l'aéro de ta voiture. Pour faire simple, et parce que moi je suis pas un spécialiste, en gros t'as moins d'air, donc moins de traînée, donc tu roules plus vite, mais t'as besoin de plus d'appui sur ta voiture, ce qui fait que tu vas aller très vite en ayant des réglages type Monaco. Voilà.
Ouais, c'est ça.
Donc c'est un, comment dire, une belle équation pour les ingénieurs. Il faut trouver le meilleur compromis avec cette donnée-là. Donc c'est assez particulier. Et d'ailleurs, c'est un circuit où Red Bull n'a jamais été très costaud. Donc c'est toujours intéressant. Comme donc tu disais, il fait 4 km combien, 4 km 500 comme ça.
300
ouais.
C'est ça.
Et c'est surtout il a une ligne droite de une borne au début, quoi. Donc ou à peu près, ouais, si c'est ça, ouais.
Donc ouais, c'est ça, comme ça.
Ouais, c'est ça. Donc t'as à peu près 1 km
c'est 830 mètres entre
depuis le départ,
jusqu'au...
ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais, voilà,
exactement.
C'est ça. Ouais, t'as 800 mètres avant le premier virage. Donc c'est toujours intéressant ces départs-là parce que tu sais que avec la SPI ou quoi, t'es troisième d'un Grand Prix au Mexique, tu peux sortir du premier virage en tête et donc ça donne toujours des virages assez intéressants.
C'est peut-être la meilleure place, ouais.
Ouais. Un peu comme en Russie à l'époque, on se souvient de Tasque avait dit,
vrai,
peut-être j'ai fait
parking.
Exprès d'être troisième, ouais, sur le fameux parking de Sochi. Donc ça c'est intéressant. Et après il change complètement de physionomie puisqu'on arrive dans un secteur hyper sinueux, ouais. Avec même des enchaînements de virages et puis on finit, donc après à un moment ça réaccélère un peu et puis on finit dans le stadium où vraiment là c'est presque une parade, t'as une espèce d'épingle terrible que le pilote passe en seconde ou parfois même en première s'il se rate, enfin vraiment c'est très lent et ça finit par un virage tout en appui qui fait mourir les pneus là pour aller le plus vite possible et là tu réattaques la ligne droite, donc c'est un circuit qui se fait assez vite et quand t'as eu un volant et des pédales chez toi, tu te marres bien là-dessus.
Mais comme t'as dit, c'est super particulier comme circuit parce qu'en fait, à la fois, tu vas super vite, c'est là où on atteint les vitesses les
350,
les plus rapides,
comme ça,
les plus hautes. Ouais, effectivement. Mais alors que, bah, genre, pour éviter que ta voiture soit complètement instable à cause du fait qu'il y ait moins d'air, t'as en fait effectivement une configuration qui rappelle Monaco où en fait tu veux appuyer la voiture sur la piste. Et en plus, il y a aussi une donnée à ne pas oublier, c'est comme il y a moins d'air. Je crois qu'on est sur 20% de pression en moins, enfin voilà, pour le chiffre. C'est plus dur de refroidir aussi la monoplace.
Donc
c'est toute
logique.
Une équation difficile, quoi.
C'est vraiment plus difficile, Jus, à gérer là pour les ingénieurs. En fait, la grande donnée quand un team arrive au Mexique, c'est la fiabilité, peut-être plus que la perfo.
Ah bah oui, effectivement, déjà il faut s'assurer que la voiture ne soit pas dans le rouge niveau température, ça c'est essentiel, sinon bah juste c'est de la surchauffe, et que ce soit d'ailleurs pour les pneus ou pour le moteur d'ailleurs, mais oui sinon c'est l'abandon risqué, ou alors juste t'es obligé de passer une à deux fois de plus au stand, donc ça n'a aucun intérêt. Et puis après, quand même, au niveau de la performance, c'est juste, il faut que le pilote se sente bien dans la voiture et se dise pas à tout moment, par exemple dans le fameux virage après la grande tribune impressionnante, il faut que le pilote, quand il tourne à droite, se dise ok, là ma voiture elle reste sur la piste, elle est pas en train de dériver à gauche ou juste de partir être instable et partir en tête à queue. Donc ouais. Et là on va pas rechercher le fait d'aller je sais pas, comme à Monza ou autre, on va pas chercher le côté aller le plus vite possible, parce qu'en fait naturellement on va plus vite, c'est obligatoire, il y a pas de, mais
c'est vrai que
pour les ingénieurs c'est très difficile.
Fred Vasseur en parlait là après le Grand Prix d'Austin aux États-Unis, il disait déjà Mexique c'est le Grand Prix le plus particulier de l'année pour toutes les équipes, c'est vraiment à part, c'est quelque chose de différent rien que pour l'altitude, on le rappelle, 2200 mètres d'altitude, ça change vraiment tout. Les gars, alors c'est vrai, Louis, t'as raison que Red Bull galère un peu sur ce circuit-là. Et pourtant, Verstappen s'est imposé 5 fois sur les 6 dernières années. C'est le gars qui a pris le plus de points au Mexique dans l'histoire de la Formule 1, 147 points. C'est un tracé qu'il affectionne particulièrement. En tout cas, Jules nous disait, il faut être à l'aise, il faut que le pilote se sente vraiment à l'aise dans la voiture et tout ça, gérer l'altitude. Lui, Verstappen, ça lui pose zéro problème, visiblement.
Ouais, bah, lui, globalement, être à l'aise dans sa voiture, ça fait longtemps que c'est le cas, et donc ça lui permet de...
Ouais, quelles que soient les conditions, ça arrête.
Pas tort. Donc, parce que c'est ça, globalement, Red Bull, à chaque fois, ils te font le petit discours, là-bas c'est pas chez nous, on a du mal, la voiture souffre. Puis finalement, Verstappen ces dernières années, il prend à chaque fois. Donc c'est assez particulier. Mais il n'y a pas la deuxième voiture. Pérez, il fait un podium en 2021 et c'est son meilleur résultat là-bas. Donc c'est différent. Moi, pour ce week-end, Ferrari ou Mercedes, je vais les regarder particulièrement, je pense.
Est-ce que c'est pas le circuit idéal, Jules, pour reprendre des points à Verstappen quand on est Lando Norris? Parce que c'est tellement particulier, le Mexique, qu'on se dit que c'est peut-être là la bascule. Alors je vais vous donner un chiffre, mais sur les 5 derniers week-ends de compète, donc j'inclus les courses sprint aussi, les sprint race, Norris doit reprendre en moyenne 11,6 points. En gros, pour être champion du monde par rapport à Verstappen. Ça paraît colossal, mais au Mexique, on se dit que tout est possible, Jules.
Le truc, c'est que ouais, tout est possible, et notamment dès le premier tour. Et c'est là où, par contre, déjà Norris, il s'est fait piéger, à mon sens, à Austin au premier virage, parce que bon, il veut la jouer un peu gentil, et du coup, il laisse la porte ouverte à Verstappen. Et bon, Verstappen, c'est pas un, voilà, quand il voit un espace, il fonce, quitte à jouer avec les limites du règlement. La science de la course va beaucoup compter. En tout cas, le fait de savoir bien dépasser, de sentir le truc, parce que on se rappelle. Il y avait eu un départ assez impressionnant en 2017 au Mexique avec Vettel qui à la fin perd son aileron avant au duel avec Verstappen et Et c'était une Mercedes, du coup je crois que c'était Hamilton. Et en fait, oui, il y a possibilité de reprendre des points à Red Bull et à Verstappen, mais le truc c'est que va falloir surtout bien s'en sortir dans ce premier virage et ne pas comment dire hypothéquer ses chances au bout de 30 secondes. Et ça, je sais pas si Norris va être capable de le faire, d'autant que bon, les départs de Norris, c'est au-delà
Ouais, c'est ce que
d'Austin,
j'allais dire.
voilà, c'est pas son fort.
J'allais dire Lando, les premiers virages, c'est pas trop son truc, quoi.
Et puis se dire qu'on va reprendre des points. Alors oui, la Red Bull, elle est pas spécialement à l'aise sur des circuits comme ça où il y a beaucoup d'appui. Mais à la fin, c'est ce qu'on a dit au début. Sur les 5 derniers Grands Prix du Mexique, il y a 4 victoires de Verstappen. Donc
Ouais.
lui, il sait faire. Alors c'est sûr que là, il a clairement pas la même voiture qu'avant. Mais bon, c'est pas Norris peut pas arriver là et surtout en plus vu ce qui s'est passé à Austin, peut pas arriver là en se disant ok normalement je passe devant Verstappen. Enfin en tout cas je prends des points, c'est rien n'est dit. D'autant que enfin on va en parler, mais faut ajouter Ferrari dans l'équation donc.
Ouais, c'est clair. C'est clair qu'il va falloir ajouter Ferrari dans l'équation. Louis nous disait aussi Mercedes, parce que c'est vrai que
Oui.
Mercedes aime plutôt bien ce
Bah ouais, quand
circuit.
tu regardes la course de Russell week-end dernier,
Ouais.
c'est quand même,
Ils vont vite, ils
ils
vont
vont vite,
vite.
hein. Il part des stands, il fait une bonne course. Hamilton a bien roulé tout le week-end jusqu'à sa perte de contrôle. Donc elle est peut-être un peu pointue, un peu nerveuse encore la Mercedes, mais elle va de nouveau plutôt vite. Donc intéressant aussi surtout comme tu l'as dit pour le coup le Mexique dans les grandes années Mercedes, ça se passait bien pour eux souvent aussi quoi. Donc,
Alors si vous
mais
nous écoutez,
ouais.
hein, je rappelle qu'on enregistre le podcast avant la première séance d'essai, hein, qui a lieu ce soir. On est jeudi après-midi, donc voilà. Peut-être que si vous l'écoutez demain, ça sera un petit peu floué nos analyses par
T'es en
les
train,
perfs
tu fais des
des
précautions
essais libres.
oratoires pour dire qu'on ça se trouve on se vautre
Oh, non,
Mais de toute façon.
je préviens parce que je me mets à la place du gars qui écoute le podcast dimanche matin avant la course et qui se dit mais ils sont nazes eux, mais
Mais les
Mais de toute
Ferrari,
façon, il est
elles
difficile à lire
partent.
le Grand Prix du
Mais oui.
Mexique avec les. Parce que quand on regarde d'ailleurs les pole positions et le classement de la course, c'est quasiment jamais la même chose. Et en fait, il est difficile à lire ce Grand Prix parce que du coup, aux essais, les ingénieurs testent vraiment plusieurs configurations pour voir ce qui va le mieux. Parce que vraiment, c'est un circuit unique au niveau de l'atmosphère, enfin, de la pression atmosphérique. Et effectivement, genre là, si on voit. En qualif, qu'il y a une voiture qui est clairement plus rapide que l'autre. Peut-être aussi qu'elle a une configuration beaucoup plus qualif que course. Alors qu'en fait, bah, la course, c'est quand même, je sais pas, je sais plus combien de tours c'est, genre une cinquantaine.
Ouais, c'est
Mais
ça.
là, ça a vraiment compté,
Je
quoi.
crois que c'est même plus que ça.
Et alors qu'il y a des
Attends.
circuits où
Je
les
l'ai, je
configurations
l'ai.
qualification et course sont quand même, se rapprochent un peu plus.
Alors, je suis comme Jean-Luc, j'ai énormément de fiches, mais je m'y retrouve beaucoup moins bien que lui. Donc, si vous l'avez avant, bon, je vais essayer de vous trouver ça, les gars.
On va
Mine de rien,
trouver.
l'ami Norris, il
71.
vise. Ouais, c'est ça.
Ah, c'est quand même plus ok.
Ouais.
L'ami Norris, il vise une troisième pole position consécutive, les gars, Louis.
Ouais.
Et c'est pas si fréquent que ça dans l'histoire. Je regardais, il y a 33 pilotes qui l'ont fait. Donc voilà, il va très vite en ce moment, toujours en configuration qualif. Et c'est toujours la problématique avec Norris, c'est de mettre tout ça après en place pour la course, quoi.
C'est ça me rappelle une période il y a 2 ans, je crois, à peu près au début de l'hégémonie Verstappen. On avait souvent une pole de Charles, mais on
Ouais.
savait très bien que ça tiendrait pas le dimanche. Alors là, pour le coup, la différence de Charles, c'est que McLaren, ça doit tenir le dimanche et que ça tient pas pour différentes raisons. Parfois, c'est les difficultés du pilote à passer le premier virage en tête ou le premier tour. Parfois, c'est un petit peu de bisbille interne, quelques erreurs stratégiques, mais c'est ce qu'on répète dans chaque épisode, c'est qu'ils ont du mal à prendre tous les points quand il faut. Donc maintenant, tu te dis ouais, trois pôles, c'est incroyable. Ça prouve une fois de plus que sûrement en ce moment, c'est eux qui ont la meilleure bagnole. Mais du coup, bah ça sera encore plus de regrets dans 5 courses quand ils seront pas champions, puisque c'est mon pari. Et voilà quoi. Donc moi je trouve ça. Je me dis ouais, comme tu dis, trois pôles d'un coup. Normalement, ça doit faire beaucoup plus de points que ce qu'ils font. Et Lando, de toute façon, c'est là-dessus qu'il doit travailler parce qu'avec la voiture et son talent, le jour où il met en boîte les points qu'on lui offre à peu près quoi, pour faire simple, ça c'est champion du monde quoi. Donc surtout si on en parlera juste après, mais surtout si le, son numéro 2 qui est tout sauf un numéro 2 s'éloigne et change d'écurie, ça pourrait être pas mal pour lui aussi peut-être finalement.
C'est clair. Week-end de la dernière chance là pour Norris, pour toi?
Ouais, c'est clairement la dernière chance. Déjà là, très franchement, on a un peu l'impression que bon, c'est les carottes sont cuites. Après, on dit que les carottes, enfin moi je dis un peu que c'est cuit, mais après tout, il suffit d'un abandon de Verstappen et tout est relancé. Enfin, abandon de Verstappen et Norris qui ferait 25 points.
Ouais,
ou 18.
Bien sûr.
Mais bon, c'est difficile. En fait, Helmut Marko, bon, il a toujours un franc-parler qui parfois est un peu problématique. Mais est-ce qu'il avait tort quand quand il a dit pendant le week-end aux États-Unis que Norris peut-être que psychologiquement il n'est pas au top et qu'il doit travailler sur ça? Je pense qu'il y a une part de vrai et surtout comme tu viens de le dire c'est que derrière lui il y a Norris qui presse qui a envie d'être numéro 1 oui oui j'ai dit quoi Norris oui
ouais
Oscar
t'as dit
Piastri.
Norris mais Piastri
Ouais, pardon, il y a Piastri derrière lui qui presse, qui veut être numéro 1. Il y a Red Bull qui s'en amuse bien, parce que d'ailleurs, Helmut Marko se permet ce genre de commentaires, mais sachant que en parallèle, t'as Verstappen qui dit « Moi, je comprends pas comment Piastri peut accepter d'être numéro 2 dans cette écurie. » Donc, clairement, tout le monde met la pression sur Norris. Norris se dit peut-être que ah, c'est l'occasion ou jamais, parce que rien ne dit que la saison prochaine, McLaren sera au niveau de Red Bull, ou que Red Bull, en tout cas, sera en difficulté comme ça. Donc oui, c'est le Grand Prix de la dernière chance, mais en même temps, peut-être que cette dernière chance, elle est déjà passée. Donc,
Ouais, c'est clair. Et rien ne dit que la saison prochaine, Norris soit numéro 1, le pilote numéro 1, hein, face à Piastri, quand on voit un petit peu ce qui se passe et toutes les déclarations. Alors, bah, je vais vous donner un petit peu les actus de la semaine. Là, c'est une semaine raccourcie, hein, puisqu'il y avait le Grand Prix d'Austin dimanche dernier, la Formule 1 qui enchaîne. Mais bah, tu le disais, Jus, il y a des rumeurs là qui agitent le paddock. Il y a une sortie d'Helmut Marko. Est-ce que c'est pour déstabiliser Norris? Est-ce que c'est pour déstabiliser McLaren? Peut-être. En tout cas, il s'est
Ah
permis
pour
de
moi, c'est
remettre un
sûr,
tir.
100%.
Ouais, il s'est permis de remettre un tir à Sergio Pérez en disant que son baquet était pas assuré pour la saison prochaine, que avoir signé un contrat, ça garantissait plus rien en Formule 1. Donc petit tir à Sergio. Et en plus, ils sont pas cachés de faire fuiter l'info ou la rumeur qu'ils pistaient très sévèrement Oscar Piastri pour la saison 2026. Est-ce qu'on le croit du coup, Jules? Toi, tu le crois pas? Tu dis que c'est de l'intox, c'est juste pour mettre la pression.
Je pense qu'après, une écurie comme Red Bull se renseigne toujours sur les situations contractuelles, les envies des pilotes, et ça parle aux agents. En plus, bon, l'agent de Piastri, c'est Mark Webber, enfin, il est tout le temps dans le
Ouais.
paddock. Bon, je doute pas que les autres agents le soient aussi, mais voilà, c'est le jeu du mercato. Après, pour moi, c'est clairement une opération de déstabilisation, même si en vrai, Marco pourrait le faire à tout moment dans la saison, peu importe, mais là, c'est vraiment dans ce contexte-là. Ça me paraît assez clair, à la fois pour déstabiliser McLaren et Norris, parce que bon, lui, par contre, Piastri, il se dit bon bah ok, c'est cool, tout le monde m'encourage, tout le monde trouve que je suis incroyable, bon bah je vais le prouver. Mais par exemple, ce qui me fait dire que bon, c'est juste pour alimenter la presse, etc. C'est que ok, 2026, on se demande toujours si Verstappen sera chez Red Bull, mais pour l'instant, il est censé y être. Et alors que Verstappen vient de dire, je vois pas pourquoi Piastri accepte d'être numéro 2 chez McLaren, d'un coup, Piastri serait OK pour être numéro 2 chez Red Bull. Bon, ça n'a pas trop de sens. Donc, bon, voilà, c'est le jeu médiatique, le jeu entre écuries. Et par contre, ça peut avoir une incidence, effectivement, en course. Peut-être que Piastri, si jamais il y a une lutte avec Norris, refusera de laisser passer Norris ou en tout cas va le challenger quoi. Si jamais il y a une consigne, parce que c'est toujours pareil, on sait pas trop.
Ils sont en train de lui rentrer dans le crâne, tout simplement, un peu, et de perturber McLaren. Je vous donne quand même, Louis, ouais, je vous donne la décla d'Helmut Marko dans les médias allemands sur Sergio Pérez. Il a dit, il a peut-être un contrat, mais la Formule 1, c'est une méritocratie. Si les performances ne sont pas bonnes, même les contrats ne servent à rien. Donc, à la fin de la saison, on va s'asseoir ensemble, on décidera qui est le meilleur coéquipier pour Max chez Red Bull. Voilà. Bon, il remet la pression à Sergio.
Voilà, elle est belle celle-là quand même, hein.
Ouais, celle-là, c'est vrai qu'elle est offensive.
Ouais, voilà,
elle est offensive.
C'est ça. C'est genre,
une fois de plus, hein. Bah, alors, à force, on les ouais. compte plus, hein, les
ouais.
coups de pression.
Ouais, on les... Non, mais à la rigueur, quand même, il y a une mansuétude avec Pérez qu'il n'y a pas eu avec les autres. Avec les jeunes qui sont un petit peu enchaînés avant Pérez. Lui a eu le droit, dans des périodes où vraiment on se demandait qu'est-ce qu'il foutait, il n'y a pas d'autre mot, parce qu'il faisait 7, entre 7 et 15, alors que l'autre, il était 20 secondes devant premier. C'était pas d'une virulence incroyable les propos Red Bull en interne, ils étaient presque bienveillants, en confiance. Derrière, on le resigne pas il y a longtemps, hein. C'était cet été, je crois, ou je sais plus. Enfin bref, on avait eu le temps de voir qu'il était pas au niveau, enfin au niveau de Max du moins. Enfin ça, c'est évident. Ce que je veux dire, c'est au niveau pour être un coéquipier d'une écurie qui joue le titre. Donc qu'aujourd'hui il prenne sa nuquette, ça, ouais, c'est, on a envie de dire, bah Helmut, t'as mis du temps avant de ouais. de sortir là. Mais ouais, bon, je pense qu'il est temps. Voilà, on finit la saison et ça, je pense que ça serait pour l'intérêt de tout le monde. Après, si c'est Piastri qui va, c'est mauvais pour Adjar.
Dès la saison prochaine.
Ouais. Imagine, il y va, du coup, Lawson, Tsunoda reste chez eux et donc Adjar, il a pas de baquet.
Bah après, je crois qu'il y a Honda qui pousse très fort pour que Tsunoda soit chez Red Bull l'année prochaine.
C'est quand même un nom qu'on entend très Tsunoda, peu. Hein. Ouais, on entend très peu, à tel point que limite, on a l'impression que aujourd'hui, Lawson a un temps d'avance. Quand t'entends certains commentaires, tu te demandes si. Si Lawson n'est pas plus regardé pour le premier baquet que Tsunoda, et tu te dis, bah, du coup, pourquoi, en fait?
ouais, c'est clair. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, sinon, les amis? Bah, il y a Toto Wolff qui a fait sa petite sortie pour démonter Red Bull. Alors, on avait l'habitude. Sauf que là, on a envie de lui dire, Toto, c'est peut-être un peu tard. Hein. Vous savez que la FIA a classé sans suite une enquête concernant un dispositif mécanique de Red Bull, le dispositif T-Try. Je suis de plus en plus fluent en anglais.
Là, ça devient incroyable. Pour ça que tu t'es lancé à l'espagnol, là. C'est parce que l'anglais, c'est bon, c'est fait.
Ouais, c'est fait, c'est coché. Et donc il a publiquement ce dispositif était attaqué par Mercedes. Julien, ouais, bon, c'est
ouais, je pense
qui met
que
un tir,
presque
mais on sait pas
ça l'amuse, hein, j'ai l'impression. Ouais, j'ai l'impression que ça l'amuse un peu de, enfin, ouais, je pense que ça l'amuse pas, mais bon, s'il peut embêter Christian Horner et Red Bull, ouais, il est content, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est pour le show. Qu'est-ce qu'il nous a dit, l'ami Toto? Il a dit que c'était un scandale, hein. Bon, il a qualifié de scandaleux le dispositif de réglage de hauteur de caisse, parce que c'est là que se situe un petit peu l'intrigue. Voilà. Et il dit que la FIA va forcément se repencher sur cette situation-là, parce que ça peut pas en rester là. Il parle de Bugs Bunny. il dit que Red Bull a montré à la FIA un outil digne de Bugs Bunny. Ouais, ça c'est fort, ça. Il est quand même marrant, Toto. Ouais. Toto.
Mais Toto, de toute façon, depuis Abu Dhabi 2021, c'est devenu Tati Daniel, quoi. Juste, il est de mauvais poil, il allume tout le monde, il a des cernes jusqu'à mi-joue. Enfin bref, c'est le Toto saillant, gendre idéal, tout ça, c'est et nous a quitté un jour de décembre 2021.
C'est vrai qu'il a pris un petit coup sur la carafe ce jour-là, en effet. Fernando Alonso, les gars, avant ce Grand Prix du Mexique, quand même, premier pilote de l'histoire de la Formule 1 à courir, à participer à 400 Grands Prix, 21 saisons, hein, de F1, Alonso. Julien, bon, c'est colossal, bien évidemment. Hein. 400 Grands Prix, franchement, moi, je pensais pas voir ça de mon vivant. Et au final,
ah, c'est beau. Hein. Non, franchement, c'est un peu une sorte de récompense pour son talent, pour ses performances. Hein, voilà. Après, bon, là, cette saison, c'est un peu, je trouve, c'est pas très intéressant, quoi. Mais sinon, ouais. Non,
c'est début de saison, c'était pas mal, Aston, comme un peu la saison dernière. Et puis ça s'effondre, t'as pas d'évolution, tu rentres dans le ventre mou, là, et t'arrives pas à t'en sortir. Et puis, on parle plus d'eux, franchement.
Ouais, mais très, très mou, le ventre, parce que y a As qui est évidemment un petit peu plus loin, mais tu vois, As et Aston, enfin, ça pourrait presque se battre à quelques grands prix près de début de saison où la différence s'est faite.
Très très mou.
L'année dernière, ça envoyait des podiums.
Je croyais que tu parlais de ma condition physique quand tu disais très très mou le ventre. Je me suis dit, comment il sait ? Comment il sait, celui-là ?
Au moins, As, c'est ascendant, quoi. Enfin, ça, il y a quand même des signes où on se dit, bon, bah, ils peuvent faire quelque chose, quoi. Tiens, on met des voitures en Q3, voilà, il se passe quelque chose avec, en plus, le nouveau partenariat annoncé avec Toyota, voilà, c'est.
Un nouveau pilote.
Vous me direz, avec Aston Martin, ils ont, son nom m'échappe.
Adrian Newey, ils ont le goat.
L'ingénieur. Oui, Adrian Newey, ouais. Pardon. Voilà, ils ont Adrian Newey, mais bon, c'est pour, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu mort chez Aston Martin. Bon. Mais
bah,
bravo,
c'est clair, c'est qu'en tout cas, tu vois, par rapport à As, bon, je pense que RB a abandonné un peu. Ils ont pas lâché l'affaire, mais ils voient que As a évolué et qu'en effet, ça prend des points. RB et Aston, c'est en train de descendre fort et c'est clair qu'il y a une vraie petite hype autour de As par rapport à ces deux écuries-là. Ça c'est une certitude.
Mais pour moi, c'est
Fernando.
Ouais, mais juste avant, pour moi, ces écuries-là, c'est un peu comme Sauber, Aston. Pour moi, ils sont déjà projetés 2026. Tu vois, je pense qu'il faut les attendre avant mars 2026. Je pense, c'est mon avis, parce qu'en fait, ils se disent bon, là, de toute façon, qu'est-ce que tu peux aller chercher entre la 6 ou la 4 ça, voilà,
ils sont en construction. D'ailleurs, on va essayer.
Je pense qu'ils
attendent d'inviter
qu'ils puissent commencer à bosser sur la bagnole et que la bagnole de l'année prochaine va être celle-là avec des bouts d'aileron ajustés et point barre, quoi.
C'est clair. On va essayer d'inviter, là, quand la saison sera terminée, Laurent Méquies, le directeur de l'équipe.
Je vais
le dire en entier. Visa Cash App RB.
Allez hop, ça peut venir sponsoriser le podcast, on sait jamais.
Bien évidemment. Mais oui, il faut faire un petit peu de pub, les gars. Voilà. C'est comme ça. C'est un business aussi, le paddock RMC, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, bien évidemment. On est prêt à prendre toute rémunération en cash. N'hésitez pas à nous solliciter.
Et les gars, vous faisiez quoi en mars 2001 ?
Alors mars 2001, pas grand chose. J'avais 10 piges, moi.
École primaire, quoi.
Ouais, moi pareil, je devais rentrer en CE2. Bah, c'était le premier Grand Prix d'Alonso, pour revenir sur ce que c'est que 400 Grand Prix. Donc c'est là que tu te dis c'est monumental, quoi. C'est incroyable, quoi.
On a grandi avec ce gars, quoi. On a vieilli avec ce gars.
Bah moi d'ailleurs au début, je vous l'avais déjà raconté, je l'ai détesté en fait, parce que moi j'étais le petit gars qui tu sais, quand t'es petit, t'es pour le meilleur. J'étais à fond Ferrari, à fond Schumacher. Et donc j'étais là, mais qui est donc cet insolent qui vient détrôner le roi, quoi. Il a fallu
je pense
que
ça l'a fait à beaucoup de personnes.
Ouais, il a fallu que c'est limite en fait rétrospectivement que j'ai kiffé l'époque, mais sur le moment j'étais presque déçu.
Mais tu sais, Fernando Alonso, champion, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est le parallèle avec Rafael Nadal. Espagnol et tout ça.
Ouais,
Rafael Nadal, c'est la même chose. C'est le mec qui arrive, il tapait Federer, t'es là, mais le mec en débardeur et tout, qui vient casser un peu les codes. Tu dis non, mais c'est pas possible. Et en fait, tu te rends compte après 10 ans, tu te rends compte que les mecs, ils sont classe, ils sont bons. Ils ont fait avancer leur sport, ce sont des monstres de longévité et franchement, un grand respect à Fernando Alonso. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis, pour ce week-end ? On a Mercedes qui a annoncé que Lewis Hamilton allait céder sa monoplace lors de la FP1 à Kimi Antonelli. Andrea Kimi Antonelli. Voilà. Mm-hmm. Deuxième roulage pour lui ? Troisième roulage ?
Je sais pas, faut qu'il aille plus loin qu'un tour déjà.
C'est ça.
Ah oui, c'est vrai que
la dernière fois il a fini dans la parabolique.
Assez gênant. Mercedes a dit on retient par rigueur.
Qu'est-ce qu'il avait été couvert, enfin ce que vous voulez, parce que genre.
Toto, on l'avait entendu. Il lui avait passé de la pommade.
Dis donc. Et puis même dans les commentaires des gens autour, moi j'avais noté là, pareil, ouais, c'est une mansuétude, une gentillesse face à. Normalement, quand un rookie se plante, tu vois, Montani, il lui tombe dessus. À la télé anglaise, on lui tombe dessus. Lui, on ne sait pas pourquoi, mais il a le droit. Bah, tant mieux.
Après,
on va pas tomber sur un gosse.
Tant mieux, c'est ça. Parce qu'en vrai, c'est ça. Il est bébé, là. Et il fait une erreur. Ça arrive à tout le monde.
Non, mais heureusement.
Ouais, mais est-ce que tu as le droit de
plaisir ? Je note plus la différence de traitement entre certains que le fait que c'est autant.
Ah oui, non, mais ça,
moi, je suis d'accord avec toi. On va pas tomber à bras raccourcis sur des gamins de 18 ans. Il n'y a pas trop intérêt.
Est-ce qu'il a le droit à une deuxième erreur, par contre ? Parce que là, ça va commencer à faire jaser.
Très bonne question. Tu serais pas journaliste, toi, Nico ?
Quelque chose à être métier, comme on est mourant.
J'avoue, parce que la deuxième, Julien, t'en penses quoi ? Moi, je n'aurais pas quoi dire.
Oui, non, s'il se replante, ce sera gênant. Mais de toute façon, enfin, ce sera dans sa tête là. Quand il
Ouais.
va sortir des stands et il va se dire, faut surtout pas planter la voiture. En plus, c'est un Grand Prix où c'est compliqué de régler de faire la bonne configuration. Donc, ouais, non, il va clairement y penser et je pense qu'il sera un peu plus prudent. Et peut-être même aussi que le programme de Mercedes sera plus tranquille sur ce qu'on va
Ouais.
lui demander.
Ouais, du
Ouais, c'est
roulage quoi.
clair.
Vas-y, roule un peu.
Sinon,
Ouais, c'est ça.
on a toujours pas de Théo Pourchaire hein, sur la FP1 de Sauber de
Ouais.
Steck. C'est Robert Schwartzmann qui va rouler en FP1 ce week-end.
Voilà, c'est bien. Un gars de l'Académie Ferrari alors qu'ils ont une académie pleine.
Ouais.
Et qui quitte Ferrari.
Ouais. Non, mais Sauber, bon, c'est un peu.
C'est sa deuxième
On sait pas trop où
apparition
ça va aller
hein,
quand
au volant de
même.
la Sauber. Hein. Il avait
Ouais.
déjà piloté aux Pays-Bas à la place de Bottas. Donc voilà. Bah, mais ce qui est bizarre, c'est que c'est certainement pas lui qui va piloter l'année prochaine et qui
Non
aura le
plus, ouais.
baquet.
Ouais. Oui, en fait, c'est ça que je comprends pas. Du coup, bon, non pas qu'il soit mauvais, hein, Schwartzmann, hein, mais juste, enfin, ça, tous les bruits de couloir laissent penser que bah, ce sera pas lui, tout simplement. Il y a plein d'autres noms cités, mais ce sera pas lui, donc.
Ah, ça n'a pas trop de sens, mais bon. Dernière petite info, Carlos Sainz qui rentre dans le top 15 des pilotes qui ont couru le plus de courses en Formule 1, 165e Grand Prix. Il va passer devant David Coulthard. Alors après, bon, maintenant il y a plus
Ah.
de Grand Prix qu'avant, on le répète, mais c'est quand même pas
Ouais,
rien de
c'est
passer
ça
devant
aussi.
David. C'est
Bah c'est
quand
ça,
Bah,
faut toujours
c'est
relativiser,
bien.
mais ça reste voilà mon top 15. Mais après c'est t'as deux grilles d'évaluation, t'as le nombre de grands prix, donc oui top 15 devant David Coulthard, tout ça. Et après t'as le gars qui a marqué son sport ou pas. Il y en a, ils ont 50 grands prix parce que selon l'époque et ce qu'ils ont fait, on s'en souviendra plus qu'un Carlos Sainz qui
C'est
a
clair, bien
une
sûr.
ribambelle de grands prix quoi. Donc c'est toujours ça à la fin à analyser. Mais bon quand
T'as
même
envie de me dire
le
que les stats, les chiffres sont à interpréter, je crois.
Et te dire comme Dimeco, ouais, le stade c'est de la merde. Mais
Ouais.
non, mais c'est différent. Mais après, Sainz, c'est quand même une carrière. Enfin, il y a un moment, il se fait jarter de Renault parce qu'on faut faire de la place à Ricardo. Il sait pas trop où il va aller. Il retombe dans un McLaren un peu moribond. Et il fait partie de la résurrection. Il est hyper solide avec tous ses coéquipiers. Il attrape ce baquet Ferrari. Il gagne des grands prix.
Ouais, 3 victoires.
Quand même, parce que son début de carrière, il a été compliqué. Il était quasiment débarqué et pas trop de sa faute quasiment chaque année. Donc, belle revanche, très belle carrière. Et bon, après, je pense, tu vois, Williams l'année prochaine et tout, on sait jamais ce qui va se passer. Mais je pense que l'apogée, il l'a connu là. Ça y est, il va connaître la fin, quoi.
Ouais.
Le truc, c'est
J'avoue.
qu'il lui manque un quelque chose pour sur la durée surtout parce que il est capable de gagner des courses, de faire de grandes courses avec des dépassements. Il peut être rapide, mais sur la durée, il lui manque toujours ce petit truc en plus pour être classé finalement dans les très bons pilotes.
Ouais, c'est le grand moment du warm-up, les gars. C'est le dernier
Oh là
moment du
là.
warm-up. C'est le moment où on demande vos pronos. J'ai demandé à Julien au début parce que lui, il est pronos. Il nous en a pas mis une dedans depuis le début de saison.
J'en ai un en
Qu'est-ce
lice
qu'on
qui tient
voit?
encore. Je,
Ouais.
tous les soirs, je prie.
Bah accroche-toi à celui-là. Jules, qu'est-ce qu'on voit sur ce Grand Prix du Mexique?
Écoute, moi je mets Ferrari devant. Bon, du coup, a priori plutôt Leclerc, mais bon, peu importe hein, que ce soit Sainz. Mais Ferrari devant parce que notamment ils ont retravaillé l'aileron avant. Preuve que du coup récemment ils ont repensé l'aérodynamisme. Frédéric Vasseur disait nous c'est pas parce qu'on annonce rien qu'on travaille pas et que même parfois sans annoncer des choses on apporte des nouveautés. Ça a été le cas avec l'aileron avant qui a bien marché à Austin et bah, justement c'est comme c'est un circuit très faut quand même faire attention à l'aéro et aux appuis. Je me dis que Ferrari peut être bien. Et sinon, je vois Verstappen devant Norris une fois de plus.
Excellent. Louis, c'est le grand moment.
Allez,
Jette-toi.
alors qu'est-ce qui va pas se passer puisque donc moi aussi désolé Julien, mais je vois aussi Ferrari,
Ah, terrible.
donc c'est mal barré. Non ouais, après bon c'est peut-être un peu le cœur qui parle aussi, mais j'ai vraiment été satisfait ou pas impressionné, mais presque par
Conquis.
conquis par la consistance des Ferrari le week-end dernier. Donc je me dis ça peut arriver. Et puis après, Verstappen sera là. On parle pas fiabilité, hein, parce qu'on n'est pas non plus Madame Irma, tu vois. Mais si les voitures fonctionnent, Verstappen sera là et les deux Mercedes aussi. Et après, et puis au fond, il y aura les Alpines et les kicks, voilà.
Bien vu. Allez, moi je me lance. Je pense que c'est le Grand Prix où Lando Norris montre à tous ses détracteurs, ou en tout cas à tous ceux qui se posent des questions, que c'est un grand pilote. Et je pense qu'il va aller la chercher.
Allez,
en tout cas, je pense qu'il va terminer devant Verstappen et il va nous offrir une fin de saison de folie. Parce que mine de
ça
rien,
ça serait bien pour le divertissement, ouais.
Ouais, ça serait bien pour le divertissement, mais au-delà de ça, je trouve que, alors oui, c'est dur, oui, il a raté des départs et tout, mais le gars, il est quand même toujours là. On lui colle cette étiquette un peu de pilote trop lisse. Il y a beaucoup de choses qui sortent sur lui, mais il termine la course sprint là, Austin derrière Verstappen, et il arrive à se bagarrer en course, à passer devant. Alors oui, il y a peut-être une mauvaise gestion, mais mine de rien, ça prouve qu'il a du caractère. On le connaît avant cette saison-là, Lando Norris, c'était quelqu'un qui avait vraiment un caractère affirmé. Et je pense que au moins là, il a envie de montrer qu'il va se bagarrer jusqu'à la fin. Et même dans la petite comparaison qu'on lui fait là et qu'on lui établit avec Oscar Piastri, je pense qu'il a envie de mettre les barres sur les T. Donc je pense que Lando va terminer devant Max. Après, voilà, je me mouille pas trop. Les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce premier warm-up du paddock RMC. Je vous le rappelle, petit commentaire, vous nous dites comment vous avez trouvé ce format-là, si c'est bien, si c'est cool, si Louis est toujours aussi mauvais sur les pronos, n'hésitez pas. Ah, vous avez son compte Twitter, là, vous pouvez le trouver très rapidement. Non, mais franchement, une petite note surtout et des commentaires pour nous dire comment vous avez trouvé ce warm-up. On va répéter ça jusqu'à la fin de la saison, mais nous, en tout cas, c'est vraiment un plaisir maintenant de vous présenter ces Grands Prix de F1. Du coup, le prochain rendez-vous, c'est lundi, débrief de ce Grand Prix de Mexico. Bon week-end de Formule à tous et à lundi. Bye bye.
Ciao.
Le Salut. Paddock RMC.